Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, les portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Aujourd'hui, Jean-Eugène Robert Houdin, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Il y a Houdini, le célèbre illusionniste américain, mais son maître, celui auquel il rend hommage à travers ce nom, c'est Jean-Eugène Robert Houdin, l'inventeur de cette mise en scène de cabaret, de la magie divinatoire, des vers inépuisables et des chausse-trappes de disparition. Inventeur curieux et bidouilleur, roi de la mécanique minuscule en queue de pie, Jean-Eugène Robert Houdin dans toute une vie, c'est tout de suite pour une heure fantastique.
Mesdames, messieurs, je vous en prie, entrez.
Mesdames,
veuillez prendre place.
Messieurs, je vous en prie, entrez.
Mesdames, messieurs, entrez, je vous en prie, veuillez prendre place.
Mademoiselle.
Mademoiselle.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Regardez-moi.
Regardez-moi.
Plongez vos yeux dans mes yeux.
Regardez-moi.
Veuillez prendre place.
Robert Houdin fait rentrer la magie chez vous. Aujourd'hui, on parle de métaverse. Mais Robert Houdin, c'est un peu ça, quoi. On rentre dans un théâtre qui a l'air parfaitement classique par la petite porte. Et tout ce qui se déroule sur la scène est un décalage de la réalité. Donc la magie arrive vers vous, et elle arrive de plus en plus fort.
Bienvenue mes amis, bienvenue. Merci d'être là. Combien j'aime avoir, chaque soir, par la foule amie, ma salle envahie et remplie à ne pas s'émouvoir.
Jean-Eugène Robert Houdin, 1805-1871, La magie retrouvée, par Federico Polo Devoto et Céline Terce.
Jean, je pose que vous nous recevez au musée de la magie à Paris et musée des automates aussi.
Oui.
Nous sommes justement dans la salle Robert Houdin.
La salle des voûtes Robert Houdin. Il y a deux vitrines consacrées à lui et puis quelques endroits où il y a des objets de son époque.
On a notamment la bouteille inépuisable.
Ah, ça c'est... C'était celle-là, elle est là. Et ça, c'est une merveille. Parce que vous savez, on a souvent critiqué, disant, oui, mais il n'a pas tout inventé, la bouteille existait. Non, la bouteille n'existait pas. Avant, il n'y avait que 5 petits liquides. Et après, quand il l'a fait, tout ce qu'il prenait entre ses mains était magnifié. On pouvait faire 20, 30 liquides, si on voulait. Voilà, j'ai une bouteille, c'est bien, c'était celle-là. Et on prenait un verre et on servait toutes les liqueurs, tous les apéritifs voulus à volonté.
À partir de cette bouteille qui fait moins d'un litre.
Voilà, qui fait moins d'un litre. Mais vous pouvez en servir 20, 30.
Il distribuait
aux spectateurs et qui goûtaient. Parce qu'ils goûtaient en plus. Et ça avait le goût de Chartreuse, ça avait le goût de... Voilà. C'est le génie de Robert Houdin, c'est qu'il commence où les autres ont déjà terminé.
Cette inépuisable bouteille fournit des vins et des liqueurs de tous les goûts, de toutes les couleurs. C'est une cave sans pareil.
La bouteille inépuisable.
Bienveillant spectateur de mes tours favoris. Ayez autant de jours prospères, autant de bons, de vrais amis que ma bouteille emplie de verre.
Madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Liqueur de poire? Eau de vie de prune? Monsieur? Mademoiselle? Un jus de pêche, jeune homme?
Thank you. Yvan Boukeff, vous nous recevez à la Maison de la Magie Robert Houdin à Blois. Blois qui est la ville de naissance donc de Jean-Eugène Robert Houdin.
Alors oui, Jean-Eugène, il est né en 1805 dans une modeste famille d'horlogers. D'ailleurs, il est né dans l'appartement qui servait également d'atelier à son père. Donc il est né entouré des outils et des productions horlogères paternelles, tout en voyant son père des heures durant travailler sur son établi.
C'est un enfant très éveillé, mais qui a des problèmes de santé.
Jean-Luc Muller.
Il tombe malade, il est malade pendant 4 ans de son enfance, à tel point qu'il ne peut pas aller à l'école tout de suite. Une fois qu'on a résolu ses problèmes de maladie infantile, il se passionne pour tout ce qu'on lui montre. Il se passionne pour les études, pour la lecture, pour un peu tout. Et il devient un très très bon élève. Donc c'est un enfant qui est en ébullition intellectuelle permanente, que son père, qui est donc horloger, qui a une petite échoppe d'horlogerie à bois, est contraint de mettre au pensionnat, parce qu'il a du mal à s'occuper de lui. Et puis la maman de Robert Houdin est morte alors qu'il n'avait que 4 ans. Et au collège d'Orléans et au pensionnat, il s'embête. Hein, et pour combler l'ennui, il crée des petites machines, notamment des pièges à souris mécaniques, qui obligent les souris à faire toutes sortes de petits sauts, etc., avec des roues crantées, etc. Et il se passionne pour l'horlogerie parce qu'il voit son père travailler, il voit plein d'objets qui le fascinent, et il apprend tout seul à reconstruire des montres simples. Et pendant que son père dort ou est absent, il se faufile dans l'atelier et il s'amuse à reconstituer notamment des tabatières avec des petits objets mécaniques. Et au bout de quelques mois, il est capable de reconstruire une tabatière mécanique avec un petit oiseau. Et son père découvre ça, comprend pas du tout comment son fils a réussi à faire ça. Et il découvre que son fils a vraiment une passion, mais dévorante pour la mécanique. Ce qui l'embête beaucoup parce que il envisage quand même pour son fils un autre destin. Et il l'envoie chez un ami qui est notaire pour qu'il se consacre à des études très sérieuses dans le notariat.
C'était un bien piètre clerc de notaire, et au final, il a réussi à convaincre son père de le laisser devenir horloger et terminer sa formation chez Jean-Martin Robert, son cousin. Il fait son tour de compagnon horloger, il est ouvrier horloger, puis voilà, il finit en 1830 à parvenir à aller s'installer à Paris. Et là, il découvre l'horlogerie de luxe et le monde des automates. Pour l'horlogerie, il fait un certain nombre d'innovations. Il ne repart pas toujours de zéro, hein, bien sûr. Le premier brevet qu'il dépose en 1837, c'est un brevet, là, on va dire, qui est plus un brevet commercial, parce qu'il imagine un réveil briquet.
Et puis vous avez aussi son briquet qu'il a inventé. C'est un briquet réveil matin et, en même temps, petite bougie qui sort. Il y a le réveil et la lumière aussitôt. Et c'est lui qui a inventé parce qu'il en avait besoin. C'est quelqu'un de très imaginatif. C'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il s'intéressait à tout, à tout.
Au 19e siècle, on va vers la miniaturisation des montres. Donc les mécanismes de montres du 18e, qui étaient très gros, deviennent inutiles, obsolètes, et Jean-Eugène, il a l'idée de les recycler en mécanisme pour réveil, et il a juste à inventer un système d'allumage qui allume une allumette, une mèche, et très rapidement, ce brevet lui permet de gagner beaucoup d'argent et de venir se renflouer à une époque où le notaire venait de voler ses économies et celles de son beau-père, avec qui il devait ouvrir un atelier boutique à Paris.
Dictionnaire encyclopédique des amusements, des sciences mathématiques et physiques et procédés curieux des arts, des tours récréatifs et subtils de la magie blanche et découvertes ingénieuses et variées de l'industrie.
Ce livre, c'est le dictionnaire encyclopédique Pincourt, édité en 1792. Et un jour, il commande un livre sur l'horlogerie. Et à la place du livre d'horlogerie, on lui donne celui-là. C'est un hasard.
C'est un ouvrage intitulé « Dictionnaire encyclopédique des amusements, des sciences mathématiques et physiques, procédés curieux des arts, des tours récréatifs et subtils de la magie blanche et découvertes ingénieuses et variées de l'industrie ». Un titre, on ne peut pas faire plus long que ça. Il ne comprend absolument pas sur quoi il est tombé. Il feuillette le livre, qui est en fait une compilation de tout ce qui a été écrit sur les tours d'escamotage et la physique amusante du XVIIIe siècle. Et divers procédés pour réaliser des tours d'adresse. Surtout, il y a un petit cahier avec des planches illustrées à côté. Pour lui, c'est la révélation, c'est une illumination. Et il passe la nuit entière, fiévreusement, à feuilleter ça, à essayer de comprendre les secrets, les mystères de cet art qui, pour lui, était assez inconnu. C'est vraiment une erreur de libraire qui a été l'éveil d'une vocation. Et ça le séduit, ça le fascine. Et ça comble son besoin d'évasion intellectuelle sur un mode poétique. Et ça devient sa deuxième passion avec la mécanique. Et en fait, les deux vont cohabiter tout au long de sa vie, la mécanique et l'illusionnisme.
Encouragé par un aussi beau résultat, je tournais de nouveau mes idées vers les inventions et je donnais un libre essor à mon imagination. Je parvins encore à faire plusieurs mécaniques nouvelles, parmi lesquelles était une pièce que quelques-uns de mes lecteurs se rappelleront avoir vue dans les principaux magasins d'horlogerie de Paris. C'était un cadran de cristal monté sur une colonne de même matière. Cette pendule mystérieuse, tel était son nom, bien qu'entièrement transparente, donnait l'heure avec la plus grande exactitude et sonnait sans qu'il y eût d'apparence de mécanisme pour la faire marcher. Je construisis alors plusieurs automates. Escamoteurs jouant des gobelets, danseurs sur la corde raide, oiseaux chantant, etc.
Des automates, il va travailler sur deux types d'automates, on va dire. Les automates de divertissement, un peu comme les horloges automates, donc des automates comme la leçon de chant que nous avons ici dans nos collections. Automates destinés à être mis en scène dans les appartements de la bourgeoisie et l'aristocratie parisienne. Et dans un second temps, il va faire un deuxième type d'automates qui sont des automates destinés à la magie. Et ça va de pair avec les trucages mécaniques qu'il produit également pour fabriquer les objets de magie.
À partir du moment où Robert Houdin découvre l'existence de l'escamotage en tant que discipline, eh bien, il fait comme il fera le reste de sa vie, il se documente, il va voir le libraire et il demande d'autres ouvrages du même genre. Il dévore tout ce qu'il trouve et il fait la connaissance d'amis de son cousin qui s'intéresse à l'escamotage, qu'il pratique, etc., et qui lui donne des conseils. Donc il est à la fois autodidacte pour beaucoup de choses, mais il suit quand même quelques enseignements pour se perfectionner, parce qu'on a, pour faire de la magie, il faut être au moins deux, une personne qui regarde ce que fait la première, parce que sinon on a un peu de mal à raisonner en fonction de ce que le spectateur perçoit. Et à la moindre soirée, hop, il sort un jeu de cartes ou divers objets, et puis il fait des tours dès qu'il trouve un public. C'est d'ailleurs comme ça qu'il fait la connaissance de celle qui sera sa future femme, en lui faisant quelques tours pour la séduire. Donc la magie est déjà
mademoiselle,
un rite de passage.
S'il vous plaît.
Et donc, il va regardez. Passer comme ça... dans différents salons. Il est très apprécié. Alors, c'est des prestations non rétribuées. C'est un peu, je dirais pas une mascotte, mais enfin, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu. On se l'arrache, hein, parce qu'il fait des tours. C'est déjà, le terme est un terme récent, mais on dirait aujourd'hui du close-up. C'est de la magie de salon, mais de proximité. Il fait avec ce qu'il a dans ses poches. Et il apprend les codes. Il les apprend extrêmement bien. Et ce qui explique qu'il va pouvoir mûrir plus facilement son projet, en parler très certainement.
En 1845, quand justement Jean-Eugène Robert Houdin décide de se consacrer à la magie et que donc s'ouvre le chapitre des soirées fantastiques, il a déjà 40 ans.
Oui.
Pourquoi il prend cette décision ?
C'était le moment pour lui, parce que financièrement, il fallait investir beaucoup. Il a fallu... Donc, c'était à la période où il était arrivé à maturité. Il avait un commerce qui marchait bien. Il avait gagné des prix aux expositions, etc. Il était déjà bien assis. Et il est arrivé à rentrer dans la haute société parisienne. Et il a fait une toile d'araignée d'amitié, de gens bien placés pour pouvoir... faire tout ça et avoir sa propre salle, financièrement et en même temps, politiquement. Ça, c'était très important. On ne s'imagine pas. Aujourd'hui, on peut avoir n'importe quelle salle. À l'époque, il fallait passer par le pouvoir. Et le pouvoir distribuait des lieux à certaines personnes, pas à d'autres. Et puis, en même temps, il y avait un quota de spectacles. Et il fallait que les spectacles soient dans la ligne.
Et quand il cherche un endroit pour produire son spectacle de magie et qu'il arrive au Palais Royal, c'est ce Palais Royal-là, un univers assez étrange, assez mixte, avec encore le soir des jeunes dames de petite vertu, et c'est la vie parisienne, mais qui pullule. Hein. C'est avant l'essor des grands boulevards. Hein. Le Palais Royal, c'est un endroit où tout le monde vient un peu s'égayer et voir des spectacles, etc. Et donc, il arrive à louer un grand appartement au 164 de la Galerie de Valois, deuxième étage, et il fait abattre les cloisons et considère qu'il peut faire tenir là-dedans entre 180 et 200 spectateurs, plus une petite scène, et ce sera son spectacle des soirées fantastiques.
Alors c'est un théâtre qui a une très jolie scène, avec un décor de Louis XV, et... Il est éclairé de manière très moderne par des becs de gaz. On y trouve de très très beaux accessoires. C'est vraiment très luxueux. On voit que c'est pas de la bimbloterie, c'est vraiment... en plus, il les fabrique lui-même. Il les fait fabriquer aussi par ses ouvriers horlogers. Il va d'ailleurs avoir une petite boutique au rez-de-chaussée de ce théâtre. Parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans des mécaniques assez exceptionnelles, en horlogerie. Et on n'est pas du tout dans l'ambiance des spectacles de foire, des baraques de foire. On est vraiment, il vous reçoit chez lui, quelque part. Et ça, ça fait une différence fondamentale avec ses prédécesseurs. En ce sens, il y a vraiment une rupture dans l'arsenic de la prestidigitation de l'illusionnisme avec Robert Houdin.
Jeudi 3 juillet 1845. Palais Royal. Palais Royal. Palais Royal. Soirée extraordinaire. Non. Soirée magique. Non, pas du tout. Soirée fantastique. Robert Houdin. C'est moi. Magie. Illusion. Subtilité. Automate. Prestidigitation. Quand ? Dimanche prochain. Deux séances.
Donc quand on arrive chez lui, on monte à l'étage, on voit des horloges et des pièces mécaniques qu'il a réalisées. Il y a parfois des démonstrations d'ailleurs pour faire patienter les spectateurs, des démonstrations avec des oiseaux chanteurs ou autres pièces mécaniques. On s'installe et puis il y a un rideau, hein, comme pour un théâtre avec un pianiste. Et le rideau s'ouvre et on voit un monsieur en habit de soirée, mais comme s'il vous recevait dans son salon, il est votre hôte. Et il commence à vous raconter des choses un peu intrigantes.
Programme général des expériences inventées par Robert Houdin et exécutées à ses soirées fantastiques. Le vase enchanté ou le génie des roses. La guirlande de fleurs, impossibilité réalisée. Le dahlia mystérieux,
l'orange émerveillé
ou les souhaits accomplis.
Le punch de Lucifer.
Le grimacier chinois.
La pelote
pièce mécanique.
les plumets et la tête de Satan.
Le bouquet à la reine.
Le verre de vin.
Le dessèchement cabalistique.
Grande subtilité.
Le coffre de sécurité.
Le favori des dames. Oui, monsieur. La corne d'abondance, produisant une avalanche de bonbons, fleurs, albums, journaux comiques, éventails, destinées, surprises, romances, etc.
Il y avait surtout un délicieux boniment, très travaillé, j'insiste là-dessus.
Est-ce qu'on peut définir juste en quelques mots le boniment ?
Un boniment, c'est le texte d'accompagnement. Qui peut être, alors aujourd'hui c'est souvent très rapide, parce qu'il y a une exigence de rapidité, lui prenait son temps. Et il dit très bien que ses effets duraient à peu près 10 minutes en moyenne, puis après il sortait 2-3 minutes, histoire que le public ingurgite et réfléchisse un petit peu, et puis il revenait avec l'effet suivant.
Et petit à petit, sur la scène, il apporte des pièces mécaniques. Mais ces pièces mécaniques ne sont pas là pour être des objets de démonstration, mais elles sont des partenaires de jeu du magicien. C'est-à-dire qu'elles interagissent avec lui. C'est un hibou automate qui va retrouver la carte choisie dans son bec. Bon. on amène sur la scène un objet qui ressemble à un grand jouet qui représente une échoppe de boulanger-pâtissier, qui s'intitule le pâtissier du Palais Royal. Il remonte la mécanique, on entend le cliquetis de l'automate qui démarre.
Un autre tour que j'ai pour vous.
Le voltigeur au trapèze.
Attention.
Voltigeur au trapèze, mais c'est...
Tout le monde est prêt.
Moi, je l'ai vu... En action, je l'ai filmé, c'est une merveille. Et c'est très émouvant parce que cet automate, il a une figure sympathique. Le magicien le pose, une sorte de pantin qui mesure, je crois, peut-être 40 cm de haut. Il le pose sur la barre d'un petit trapèze qui est monté comme ça sur la scène. Il le pose et puis il le lance et il commence à lui parler. Bon, Diavolo, fais-nous une pirouette. Et Diavolo fait une pirouette. Je me dis, mais comment est-ce qu'il fait une pirouette ? Parce qu'une pirouette, c'est un tour complet. S'il y a un fil, le fil s'enroule. Enfin, donc déjà, le public est très surpris. Et maintenant, avec les pieds et l'automate, mais sans que le magicien le touche, se balance, les bras ballants, se redresse pour se remettre, et finalement reprend lui-même son propre élan. Donc ça devient un androïde, c'est un robot. Qui est en train de jouer, qui fait des pirouettes, qui se balance sur un trapèze et sans que le magicien le touche, mais toujours en interaction avec lui. Et lorsqu'il a terminé ses pirouettes, l'automate s'élance et retombe dans les bras du magicien, comme un enfant. On peut difficilement imaginer plus poétique et plus spectaculaire en même temps que ce petit automate de voltigeur sur une scène de spectacle. Ouais. En plus, ils le présentent aux spectateurs, ils peuvent le toucher. C'est vraiment un automate en bois.
Attention. Diavolo Antonio.
Avec ardeur,
lorsque je me balance, à vos bravos, messieurs, dames, c'est pour donner l'élan.
C'est pour atteindre votre bienveillance, dont je serai toujours le zélé partisan. Plaire, amuser, c'est ma
plaire. Et amusé.
Et mon désir est,
c'est
chaque fois, en me quittant, que chacun dise au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ce qui présentait, c'était de la magie. Mais comme on n'avait jamais présenté la magie. D'abord, lui-même, il n'était pas avec des oripeaux, il n'avait pas des chapeaux, comme on voyait les magiciens. Ce n'était pas un saltimbanque de rue, comme on a vu tout le temps les magiciens. Lui, il est arrivé, il était en costume, en queue de pie, comme s'il vous recevait dans son salon.
Alors, c'était un bel homme. Il faut être clair, hein, c'était un bel homme, il portait bien. C'est pour ça que le costume lui allait extrêmement bien. En fait, si je fais un parallèle avec les musiciens de son époque... Hein, vous prenez Liszt, par exemple, il lui ressemble. Il a un regard très bleu, c'est vraiment... Il est impressionnant. Il est impressionnant. On sait qu'il capte le regard, on sait combien c'est important, par exemple pour les détournements d'attention, de savoir fixer.
Puis, c'est un public bourgeois, aisé qui vient voir ces spectacles. C'est surtout ça. Et puis, le prix des places, je ne sais plus, mais est assez élevé. C'est élevé, et puis en même temps, c'est tout le temps bourré. Hein.
Le succès arrive très très vite. Hein. C'est-à-dire que les soirées fantastiques débutent le 3 juillet 1845. Il fait très chaud, alors il le décrit dans ses mémoires, en plein été. Et 15 jours plus tard, il y a un article absolument dithyrambique dans le journal d'illustration, avec une illustration qui représente le spectacle, et le tout Paris veut voir ça. Quoi.
Le journal de Charivari. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur moi ? Dans la galerie de Valois, au Palais Royal à Paris, il y a un sorcier. Ce sorcier s'appelle Robert Houdin, tout bonnement.
Dans la galerie de Valois, au Palais Royal à Paris, il y a un sorcier. Mais un sorcier véritable. Ce sorcier s'appelle Robert Houdin, tout bonnement. Mais un sorcier véritable. Un enchanteur réel, garanti et contrôlé. Qui fait des miracles visibles à l'œil nu, pour la bagatelle de 2 francs.
Oh, vous tous qui descendez de Thomas et qui êtes doués d'une incrédulité parisienne, d'un scepticisme éclectique, d'une indifférence philosophique à l'endroit du surnaturel et du merveilleux, allez voir
pour y croire. Et vous reviendrez converti. Vous vous demanderez si M. Robert Houdin ne mérite pas d'être brûlé ou adoré.
La magie, c'est quelque chose qui l'accompagne, c'est sa muse, et il a trouvé quelque chose. La modernité, c'est la simplicité. Il va enlever tout ce qu'il considère superflu, pour que le spectateur ne soit pas du tout attiré par les effets de penderie, les choses un petit peu spectaculaires dans le décor. Le décor n'est là que pour enfermer le magicien dans un univers, c'est tout. Le décor ne joue pas. Et pourtant, il est truqué. Mais le spectateur ne peut pas se poser cette question puisque ce décor est un intérieur auquel il est habitué. Et donc, il a réussi à tirer tous les enseignements possibles et à arriver à la seule conclusion pour lui qui permette de faire de la magie au XIXe siècle, par opposition aux anciens, c'est la simplicité.
La seconde vue. Diable, mon cher ami. Si votre œil pénétrant devine ainsi, malgré le foulard qui le voile, savez-vous qu'on pourrait hésiter en entrant ? Rassurez-vous, messieurs, sur ce que je dévoile, mon père, en me donnant ce talent précieux, pour votre seul plaisir voulut en faire usage, et ne doubla le pouvoir de mes yeux que pour vous charmer davantage.
Alors, ce qui est très très étrange avec la seconde vue de Robert Houdin, c'est qu'il fait ça avec son fils, Émile, qui était son fils aîné, qui devait avoir, je crois, à l'époque, 12 ans. D'ailleurs, sur l'affiche, on annonce que le fils de Robert Houdin, Émile, est capable de voir à travers l'espace ou par la pensée tout ce que vous pourrez montrer à son père, quoi. Et on lui bande les yeux, il tourne le dos au spectateur. Et donc, les spectateurs sont mis au défi d'apporter des objets que le fils, les yeux bandés, devra deviner ou devra voir par la pensée. Et ce sont des objets parfois très compliqués. Alors, quand il s'agit d'une médaille ancienne et que le père a très très peu de mots à échanger avec son fils, comment fait-il pour deviner ? Donc il y a toute une mécanique qui se met en place. Donc il fait de son fils un spécialiste de tous les petits objets qui existent. Par exemple, il passe en revue toutes les médailles qui existent. Et il faut que son fils soit capable de lui dire exactement de quoi il s'agit avec très très peu d'indices. Bon, toutes les pièces de monnaie, évidemment, françaises, mais étrangères. Les cartes, enfin, etc., etc. Donc, pour les spectateurs, ce qui est amusant, là, c'est qu'on met au défi, finalement, le fils de trouver ce que le père ne peut pas lui dire. Et en plus, Robert Houdin, au bout d'un certain temps, ajoute un perfectionnement, si on peut appeler ça comme ça. Il ne dit plus un mot. C'est-à-dire qu'il communique avec son fils d'une manière que le public ignore. D'ailleurs, même aujourd'hui, on ne connaît pas toutes les subtilités de ce tour. Et il agite une clochette au moment où il souhaite que son fils révèle l'objet qui a été entrevu par son père. Et il y arrive à chaque fois.
Vous savez, quand on est magicien, on a une pensée parallèle. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais dans un magasin, je vois un objet, je le vois transformé. Très souvent, je dis, tiens, on pourrait faire ça avec un objet. Ben, ça, c'est une pensée parallèle. Et lui, il avait cette pensée parallèle en permanence. Et avec ça, il crée. Parce que si vous avez ce genre de choses, vous créez, c'est obligé. C'était un esprit en effervescence permanente.
Et lors de soirées privées, on leur demande presque inévitablement, on sait que votre fille, c'est très douée, est-ce qu'on peut avoir une démonstration? Et en général, quand ils vont ensemble à une soirée, ils anticipent la chose. Et dans ses mémoires, Robert Houdin raconte non seulement comment il entraîne son fils à développer une mémoire visuelle absolument remarquable, mais il raconte aussi comment un certain soir, chez des amis très très haut placés, ils savent à l'avance que fatalement on va leur poser cette question. Et mais en arrivant à très tôt, ils demandent à aller se rafraîchir, à aller aux toilettes ou ailleurs. Et ils traversent la bibliothèque et son fils a le temps de mémoriser quatre étagères complètes de titres de livres, tellement il a développé effectivement une capacité mnémotechnique. Et donc, d'une certaine façon, ils sont prêts. Et le moment venu, inévitablement, une heure ou deux heures plus tard, ou à la fin du repas, ou à la fin de la soirée, « Mais dites donc, monsieur Robert Houdin, il paraît que votre fils... » Et puis ça commence. « Mais est-ce qu'il serait capable de... » Donc, ils font une petite démonstration. Et évidemment, à un moment donné, quelqu'un lui dit « Mais bon, vous êtes dans la même pièce, alors forcément, vous pouvez communiquer. » Puis Robert Houdin dit « Pas du tout. Ben, vous pouvez enfermer mon fils dans la pièce à côté. » Et on pourra communiquer par la pensée. Non, mais vraiment, oui, oui, bien sûr, je vous assure. Et Robert Houdin prend son hôte par la main et lui dit, bon, écoutez, je vous propose une expérience. On va dans la pièce à côté. Mon fils reste ici. La pièce à côté, c'est la bibliothèque. Désignez-moi un ouvrage, n'importe lequel. Mais sans me le dire, celui-ci, Émile, quel livre vient de me montrer, monsieur ? Eh bien, il s'agit du traité de biologie de machin, ou la compilation des œuvres poétiques de machin, etc. Donc l'hôte est complètement abasourdi, mais comment est-ce que c'est possible? Et Émile continue, et si d'ailleurs vous voulez savoir quel est l'ouvrage qui se trouve exactement au-dessus, il s'agit d'eux, et puis il donne toute une série de titres, et donc vraiment là on est dans... Voilà, ça c'est simplement, si vous voulez, la technique de l'anticipation du magicien face au spectateur, mais il se trouve que son fils avait effectivement développé des capacités mnémotechniques très très grandes, quoi. La seconde vue, c'est un... Je trouve que dans le répertoire de Robert Houdin, c'est peut-être l'expérience la plus atypique, puisqu'elle correspond à des canons qui sont ceux de la magie à l'ancienne, de la démonstration publique, on pouvait même donner sur des foires, alors il faut le faire avec bon goût, mais disons que dans le cadre du théâtre des soirées fantastiques, c'est un moment presque de communication très amusante avec le public. Quoi.
Son chapitre magie, c'est-à-dire les soirées fantastiques, vont durer 7 ans.
Oui.
Est-ce qu'au cours de ces 7 ans, les tours se renouvellent?
Ah oui, oui, oui. Ben, il crée sans arrêt. Il a des tas de choses en chantier. Vous savez, j'avais vu à l'époque David Copperfield au Palais des Congrès. Et il répétait les tours qui allaient être faits dans 2-3 ans. Eh bien, je pense que ça, c'est exactement l'esprit de Robert Houdin. Il avait toujours 1 an, 2 ans d'avance. Il était au courant de tout ce qui se passait, des derniers détails. Il était au courant même de la vie magique.
Alors, en 1847, ont eu lieu à Paris les premières expériences publiques, les premières démonstrations publiques d'utilisation de l'éther en tant qu'anesthésiant. Donc quelqu'un se fait arracher une dent en public après avoir respiré de l'éther et effectivement, il y a un fort pouvoir anesthésique.
C'était aux yeux de bien des gens une opération tenant presque de la magie. Voyant que les chirurgiens manipulant cette substance se permettaient une sortie sur mon domaine, je me demandais si par ce fait ils ne me donnaient pas le droit d'user de représailles. Je le fis, en inventant aussi mon opération éthérienne.
Alors, il réalise une illusion qui consiste à présenter au public son plus jeune fils, Eugène, qui à l'époque avait 8 ans. Et il explique aux spectateurs, un peu comme un professeur de la Sorbonne, voilà, il existe une nouvelle substance, l'éther, et lorsqu'on la fait inhaler à un être humain, il devient aussi léger qu'un ballon.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une plaque chauffante Et il a jeté de l'éther dedans et ça se répartissait dans tout le, dans toute la salle. Et tous les gens sentaient cet éther et ils disaient « c'est grâce à l'éther qui est très volatile que mon fils est en suspension ». Vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est énorme. C'est l'imaginaire d'un magicien.
Ensuite, il place deux cannes sous les coudes de son fils. Et au bout d'un certain temps, il réussit à le faire tenir en équilibre, les jambes qui pendent et les deux coudes soutenus par deux cannes. Ce qui en soi est assez étrange. Entre-temps, évidemment, son fils a fermé les yeux et il semble être totalement endormi. Phase suivante, il positionne son fils à l'horizontale après avoir retiré une canne. Donc son fils, endormi, accoudé au pommeau d'une canne, les pieds à l'horizontale. Et il lâche son fils dans l'espace et son fils tient sans qu'on comprenne pourquoi ni comment. D'ailleurs, les premières réactions du public ne sont pas du tout celles qu'il attendait puisqu'ils sont un peu horrifiés, notamment des mères de famille qui se disent qu'il est en train de faire souffrir son fils. L'illusion est tellement prégnante, tellement forte qu'il est obligé de trouver toute une série de stratagèmes et de, dans son boniment, d'adoucir l'effet parce que l'effet est très très fort. Et c'est un peu le chef-d'œuvre, enfin la dernière illusion de son spectacle de 1847.
C'est son fils qui était en lévitation. Alors moi, je l'ai eu, cet objet, et on s'apercevait que c'était vraiment pour son fils. Parce qu'il faisait en sorte que rien ne le blesse, aucun morceau de fer, rien. Vraiment, c'était un père attentionné. Il avait mis des sous-couches de tissu pour que son bras ne soit pas blessé. C'est exceptionnel, parce que on sent une âme.
Et l'année suivante, il part en tournée en Angleterre, où il présente cette illusion parmi d'autres.
St. James Theatre presents For a Few Nights Only. Under the immediate patronage of Her Majesty the Queen, Robert Houdin of Paris. The celebrated French conjurer will give a series of magic soirées fantastiques on Monday, June 14th, 1852. General program. The safety casket. The marvelous fishing. The inexhaustible bottle. The cabalistic clock, the wonderful horloge tree, liquor monger extempore, the ethereal suspension.
Entre-temps, il se fait voler le trucage et les plans qui permettent de faire l'illusion par un de ses mécaniciens. Et lorsqu'il revient de sa tournée en Angleterre, lorsqu'il revient en France, il découvre que des magiciens proposent une suspension par l'éther, qui est en fait son invention. Et c'est là qu'intervient le génie de Robert Houdin, c'est qu'il ajoute une deuxième illusion dans l'illusion, c'est-à-dire que le début est le même, sauf que l'enfant accoudé à une canne, la canne reposant sur un tabouret, le tabouret, lui, est posé sur un banc. Donc ça fait déjà une espèce de construction assez étrange. Et à la fin de l'illusion, quand les spectateurs sont en train d'applaudir, pensant qu'on est arrivé à l'impossibilité réalisée, Robert Houdin retire le pied du banc qui se trouve sous le tabouret. Donc le tabouret n'est plus soutenu par rien. Le banc n'est soutenu que par un pied. Et ça produit une vision absolument ultime de ce que la magie peut avoir de plus spectaculaire, hein, pour un spectateur de l'époque, ou même aujourd'hui. Parce que si quelqu'un aujourd'hui refaisait l'illusion de Robert Houdin exactement comme lui la présentait, on ferait toujours un tabac aujourd'hui, 180 ans plus tard. Parce que c'est le génie dans les détails et dans la vision qu'il donne à la fin. C'est-à-dire que quand l'enfant est endormi sur cette espèce de succession d'équilibre impossible, le rideau se ferme, le public est complet. Enfin, on est au bord de l'émeute, là. C'est quelque chose qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Il n'y a pas de fil, rien ne permet de comprendre comment cette illusion est possible. Et malheureusement, pendant les 150 ans qui ont suivi, Les magiciens ont essayé ou ont reproduit cette illusion en la simplifiant, en la bâtardisant, en faisant quelque chose de beaucoup moins bien, avec parfois du succès, même à la télévision. Mais la version de Robert Houdin, c'est la version ultime que personne ne fait, que personne ne présente. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire qu'il est arrivé au bout de quelque chose. Et d'ailleurs, cette illusion était indépassable. Et c'est certainement l'une des raisons qui ont donné envie d'abandonner cette partie du spectacle, enfin, ou le spectacle tout simplement.
Les soirées fantastiques vont durer 7 ans.
Oui, voilà.
En 7 ans, Jean-Eugène Robert Houdin révolutionne la magie. Mm-hmm. Il est très populaire. Pourquoi est-ce qu'il décide de s'arrêter, Georges Proust ?
Ah, ben parce qu'il a beaucoup d'ambition. Il veut devenir scientifique.
En 1849, il se rend acquéreur du domaine, le prieuré de Saint-Gervais, qui se trouve sur le point le plus haut, sur la petite colline, en face de Blois. Hein. Ça va devenir son domaine. Il s'en rend acquéreur, mais il y a beaucoup de travaux. Et il cherche un successeur pour reprendre les soirées fantastiques. Et il propose à un jeune homme, Étienne Chocat, qui prendra le nom de scène de Hamilton, d'apprendre de son répertoire. Étienne Chocat Hamilton va devenir son beau-frère, a épousé sa sœur, et va devenir l'opérateur des soirées fantastiques jusqu'à la fermeture de la salle au Palais Royal, qui va être transposée sur les boulevards. Ce sera en 1854 l'ouverture du théâtre Robert Houdin sur les boulevards, qui va être d'ailleurs promis à une destinée assez intéressante, puisqu'il va rester en place pendant 65 ans. Ce qui est quand même très très long. Et le dernier opérateur de ce théâtre Robert Houdin, c'est Georges Méliès. Et Georges Méliès, non seulement reprend le répertoire de Robert Houdin, mais il va y présenter les premières séances de cinématographe.
Il parle de retraite, mais c'est pas vraiment une retraite. En fait, la vraie raison pour laquelle il envisage de revenir s'installer à Blois, c'est qu'il veut créer une sorte de laboratoire dans sa propriété pour y tester un certain nombre d'inventions sur lesquelles il est en train de travailler. Et absorbé par sa carrière de magicien, il a laissé tout un tas de choses de côté. Il veut y revenir.
Alors là, on a quelque chose aussi qui en fait un personnage tout à fait hors norme. Au XVIIIe siècle, on parlerait de lui comme un demi-savant. C'est-à-dire qu'il a de véritables compétences scientifiques. Ses savoirs dans le domaine mécanique et de l'électricité, de l'application notamment de l'électricité à l'horlogerie, ont été à l'origine du dépôt d'une vingtaine de brevets. Je vais vous en citer deux qui sont assez curieux. Tout d'abord, apparemment, c'est le premier à avoir déposé un brevet pour les taxis qui permettait de calculer véritablement la distance qui avait été menée pour de façon à payer en fonction de la distance.
Le compteur kilométrique.
Absolument. Et un second brevet, moi qui m'a parlé beaucoup, hein, j'ai été un escrimeur pendant 19 ans, il y a le plastron électrique que l'on porte pour que les touches soient enregistrées, bah, c'est lui qui l'a inventé.
Journal Le Constitutionnel du 19 septembre 1856. Le 16 septembre, à Marseille, M. Robert Houdin s'est embarqué sur l'Alexandre. Le célèbre prestidigitateur se rend, sur l'invitation du gouvernement, à Alger, pour donner quelques représentations pendant les fêtes qui doivent réunir les chefs arabes de l'Algérie.
François Bost, la réputation de Robert Houdin en tant que magicien est telle que plusieurs années après avoir pris sa retraite officielle, il va être mandaté par les autorités françaises pour une mission en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors c'est un épisode assez incroyable parce qu'il s'inscrit dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la guerre psychologique. En 1856, donc, il part pour l'Algérie pour une mission de 3 mois. Il a été invité par une personnalité hors norme qui s'appelle le colonel Deneveu, qui était le chef des bureaux arabes d'Alger. Et en tant que très fin observateur du peuple algérien, il avait remarqué l'influence de confréries.
Ben on lui dit, voilà, vous savez, en ce moment, les marabouts développent une sorte de résistance en montrant leur pouvoir et tout ça. Ils ont beaucoup d'influence sur les populations. Et nous, on voudrait envoyer le marabout français pour contrer voilà. Et donc, il part et il va d'abord à Pafeutré, mais puis il rencontre les gens, il fait des expériences qui ont beaucoup de succès.
Donc, il va d'abord faire deux spectacles, les 28 et 29 octobre 1856, au Théâtre Impérial d'Alger, qui est un magnifique petit théâtre. Et l'idée, c'était évidemment de présenter des effets tout à fait spectaculaires. Et donc, en fait, les autorités font venir des représentants, des agas, des bachagas, des caïds.
Toutes les tribus...
Pas toutes, mais les plus influentes.
Donc, on a ces représentants des tribus qui sont assis dans
Absolument.
Le théâtre. Et Jean-Eugène Robert Houdin...
fait son spectacle. Alors, il ne peut pas parler... Enfin, il parle en français, mais c'est traduit. Et en fait, il a fait des effets tout à fait spectaculaires. Un tour qu'on appelle le fusillé vivant, qui a beaucoup marqué les esprits parce qu'il se fait tirer à bout portant par un pistolet, et puis on retrouve la balle dans une pomme qu'il tenait, que Robert Houdin tenait devant son torse. Et puis enfin, un effet qui était la disparition d'un jeune homme qui avait été pris dans la salle sous un grand gobelet sur une table ultra mince. Alors ça a fasciné parce que on était dans la grande illusion, et puis ce personnage est réapparu dans le fond du théâtre quelques secondes après. Alors, on a une scène d'anthologie, c'est-à-dire que tous les spectateurs ont quitté dans un brouhaha phénoménal cette salle du théâtre impérial. Il a fallu calmer les esprits, donc il avait vraiment marqué quand même les esprits. Et puis, il va y avoir une deuxième étape qui est beaucoup plus mystérieuse. Il part en montagne. Alors, c'est pas très éloigné, c'est à 140, 150 kilomètres d'Alger. Et il y a cet épisode fascinant, absolument fascinant. En fait, il est sur un marché, bon, et il est accompagné par ses agas et bachagas. Et puis, il y a un marabout qui va le toiser et qui va lui poser un défi.
Où vient le défi, il lui dit, puisque tu es aussi fort, eh ben moi je vais prendre un pistolet, je vais te tirer dessus, on va voir ce que... Il lui dit, oui, je suis d'accord pour cette expérience, mais je dois faire ma prière toute la nuit. Donc le lendemain, on se voit et pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, et ce pistolet qui est en vitrine, là, que vous voyez, eh ben, il a deux canons qui sont superposés. Dans l'un, il y a une balle à blanc, et dans l'autre, on met la fausse balle. Donc, il prend une balle, il met la poutre, et il met la balle de l'autre côté, et il peut tirer, ça fait un grand boom, mais la balle ne part pas. Et il l'a déjà dans sa bouche, la vraie balle. Donc, quand le marabout tire sur lui, il tire à blanc. Mais après, le deuxième, dans la petite balle en cire, il a mis du sang. Il a fermé, il a mis dans le canon du pistolet et il était prêt. Et lorsque le marabout a tiré, il a dit « moi je tire avec ça ». Boum ! Il a tiré contre le mur qui était tout blanc et il y a une tache de sang qui est apparue.
C'est un tour extrêmement dangereux. Il y a eu au moins 11 ou 12 illusionnistes qui ont perdu la vie avec ce tour, principalement au 19e et première moitié du 20e siècle. Et c'est un tour que Robert Houdin ne faisait pas. Mais il était dans le répertoire... dans une version, on va dire, un peu, je dirais pas primitive, mais un peu sommaire, on va dire. Et il a voulu vraiment marquer les esprits.
Il y gagne son surnom, le sorcier blanc, je crois.
Voilà, le sorcier blanc.
Rentré chez moi, j'ai installé dans mon cabinet de travail les instruments de mes séances, mes fidèles compagnons, je dirais presque mes vieux amis. Je vais maintenant m'abandonner tout entier à mon goût, à ma passion, pour les applications de l'électricité à la mécanique. Qu'on ne croit pas cependant que pour cela je renie l'art auquel je dois tant de jouissance. Loin de moi cette pensée. Plus que jamais je suis fier de l'avoir cultivée, puisque c'est à lui seul que je dois le bonheur de me livrer à mes nouvelles études. Du reste... je m'en éloigne peut-être moins qu'on ne serait tenté de le croire. Il y a longtemps que je fais des applications de l'électricité à la mécanique. Et je dois avouer, si déjà mes lecteurs ne l'ont pas deviné, que l'électricité a joué un rôle important dans plusieurs de mes expériences. En réalité, mes travaux d'aujourd'hui ne diffèrent de ceux d'autrefois que par la forme. ce sont toujours des prestiges.
Le prieuré va devenir un lieu très 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 spécial. Et d'ailleurs, naîtra autour du prieuré de Saint-Gervais toutes sortes de légendes locales, puisqu'évidemment il y a un sorcier, les croyances populaires étant assez vivaces, effectivement, et le fait que Robert Houdin soit vraiment un magicien, ça donne beaucoup de grain à moudre aux différents ragots et aux légendes rurales, dans ce cas précis. Mais il se trouve que, d'une part, Robert Houdin va agencer son domaine d'une manière très 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 particulière, et s'y donneront rendez-vous toutes les sommités de passage dans le Loir-et-Cher. C'est un défilé de têtes pensantes et chercheuses chez Robert Houdin. Et puis, sur le chemin qui menait à l'entrée du prieuré, on voyait des choses étranges. Il y avait des troncs creux, d'où sortaient des petits automates. Et Robert Houdin pouvait observer ses visiteurs à leur insu. D'ailleurs, quand un visiteur venait à pied, il y avait un endroit du domaine, enfin du petit parc, où se trouvait un banc avec une inscription. Si vous voulez traverser, asseyez-vous. Puis dès qu'on était assis sur le petit banc, par un système de contrepoids automatique, on se retrouvait à franchir un petit ravin ou un petit ruisseau. C'était un univers de ce genre. Rien n'est normal. Hein. Il est le premier à avoir une sonnette. Ça n'existait pas. Au départ, d'ailleurs, c'était pas une sonnette, c'était un petit bras articulé. Il fallait frapper. Et à ce moment-là, on vous disait si vous pouviez ouvrir la porte ou pas. On avait un petit bâton la porte s'ouvrait. Et selon la manière dont on ouvrait la porte, à quelques dizaines de mètres de distance dans son bureau, Robert Houdin savait si c'était une personne ou plusieurs qui avaient ouvert la porte.
L'une des grandes expériences d'éclairage électrique, il le fait pour la communion de sa fille Églantine, qui deviendra sculptrice animalière. Et il éclaire toute la terrasse de son domaine, si bien qu'on le voit depuis Saint-Gervais, et de l'autre côté de la Loire, en face de Blois, si bien qu'on le voit de Blois, et que la presse en parlera, et que ça marquera les esprits.
Il a fait une maison truquée. On pouvait savoir qui venait, et tout ça, le nombre de personnes à distance. Il avait inventé la domotique avant le temps. Il a utilisé les électro-aimants. Les gens tapaient, ils savaient qui y avait, ils ouvraient la porte à distance et tout, c'est avec des électro-aimants. C'était quelqu'un qui avait des buts, qui avait une volonté extraordinaire, qui avait une puissance de travail très importante, et c'est pour ça qu'il a été, on l'a dit, savant. Il a inventé quelque chose qui est encore utilisé aujourd'hui, d'après les ophtalmologues, la vision de l'iris.
On est à la fin de sa vie, 1866. Il a donc déjà 61 ans. Et puis, comme tous les soirs, il est soit en train d'écrire, soit en train de lire. Et il se rend compte qu'il y a une petite tache, une petite brillance dans son lorgnon. Alors, il le retire, il l'essuie, il le remet sur le nez. Et la tache ou la brillance est toujours là. Il finit par se rendre compte que c'est pas le lorgnon qui pose un problème, c'est son œil. Et il se demande comment faire pour observer son propre œil et son contenu. Il se met au travail et au bout de quelques temps, il invente un objet qui s'appelle l'iridoscope, qui permet de s'auto-diagnostiquer, notamment dans son cas, un début de cataracte. Il se passionne pour le sujet et il construit dans la foulée 7 autres appareils pour divers diagnostics du fond de l'œil. Et il se met en relation avec l'Académie de médecine et il devient un spécialiste de l'ophtalmologie. Et ensuite, il écrit un petit précis d'études de radiation lumineuse. Et tout ça à la fin de sa vie, alors qu'il ne se préoccupait pas du tout de ce sujet 2 ans auparavant. Voilà, Robert Houdin, c'est ça. C'est le génie instantané, quel que soit le sujet. Pour peu qu'il y ait un problème à résoudre.
Il était rigoureux et on pensait qu'il était un peu froid, mais il n'était pas du tout froid, il était très sensible. Et moi, je l'ai vu, sa sensibilité, je l'ai vu quand il a perdu son fils à la bataille de Reichshoffen en 70. Bien sûr, j'ai vu les lettres, j'en avais les larmes aux yeux. Quand il a perdu son fils, après, il ne travaillait plus, il ne faisait plus rien. Il était éteint, il est mort de chagrin.
En fait, en 1870, la guerre, l'a particulièrement touché, d'une part parce qu'il a perdu l'un de ses fils à la bataille de Reichshofen, qui était capitaine d'un corps de zouaves. Je pense que Jean Eugène avait une affection toute particulière pour son fils. Et puis les Allemands sont venus occuper le prieuré. Les Prussiens sont venus occuper le prieuré. Et ils ont saccagé son domaine, qui était une sorte de mini-parc d'attractions dans lequel il y avait des automates à l'extérieur, et que Jean-Eugène a mal vécu. Et c'est certainement ce qui l'a épuisé à participer, ce qui tombe malade et en décède en 1871.
On sait que Jean-Eugène Robert Houdin a écrit aussi des ouvrages sur la magie où il dévoile, il explique certaines techniques.
C'est vrai que il a révolutionné, il a théorisé l'art de la magie, il a théorisé la réflexion sur l'illusion. Et ça, c'est très riche et c'est très nouveau. Parce que finalement, on se rend compte que les illusionnistes parlent assez peu de leur discipline, de leur art. Ils le pratiquent souvent de manière très intuitive. Ils ont du mal à en parler. Donc, voilà, ça. J'ai envie de dire que ses propos n'ont pas pris beaucoup de rides, parce qu'il était tellement en avance. Et c'était tellement juste. Il était inégalé à son époque, et à bien des égards, il reste inégalé.
C'est le seul magicien qui a été traduit dans le monde entier. À l'heure actuelle, encore.
Ce qui est amusant, c'est que Robert Houdin n'est pas une chose. Il est une chose et son contraire, une chose et son complément. Il est artiste et chef d'entreprise, il est inventeur et poète, il est homme de lettres et mécanicien, il va jusqu'au bout, c'est un idéaliste, c'est un visionnaire, et si on veut trouver quelqu'un dans le monde contemporain auquel on pourrait peut-être comparer à Robert Houdin, moi j'ai envie de parler de Stanley Kubrick par exemple. Si on pense à Stanley Kubrick et à la façon dont il envisageait de la production et la réalisation de ses films, c'est un peu la façon dont Robert Houdin envisageait le travail sur les automates ou bien la création d'illusions de magie. Il va jusqu'au bout, il élimine toutes les variantes qui lui semblent moins bonnes ou médiocres, et il cherche l'idéal de la mécanique, l'idéal de l'illusion.
L'impression kabbalistique, passant par un cordon magique, touche la corde sympathique de plus d'un spectateur sceptique. Et cet effet typographique imprime un cachet diabolique à ma séance fantastique.
C'était Jean-Eugène Robert Houdin, La magie retrouvée. Avec François Bost, Yvan Boukeff, Jean-Luc Muller et Georges Proust. Lecture de William Nadilam. Prise de son, Victoria Asper, Éric Boissé, Hervé Dubreuil et Julie Garot. Mixage, Bruno Mourlan. Remerciements à Emmanuel Galland. Coordination, Anaïs Quien. Attaché d'émission, Sylvia Favre. Un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par Céline Terce.
C'était toute une vie. Réécoute, podcast et bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.